Jean-Luc Buchalet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de Pythagore. Vous venez de publier hein, « Le futur de l'Europe se joue en Afrique ». Alors c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur l'Afrique et ses relations avec l'Europe, qui est l'Afrique qui évolue, qui est à la fois en pleine croissance, mais qui a aussi beaucoup de défis à relever. Qu'est-ce qui vous a amené déjà à faire cette analyse de fond sur l'état de l'Afrique aujourd'hui ?
Alors, juste pour resituer le sujet, donc on est passé quand même d'un afro-pessimisme excessif avant les années 2000 et à un afro-optimisme extatique qui lui-même est un peu excessif dans l'autre sens. Donc c'est l'histoire du verre à moitié plein et à moitié vide. Donc vous connaissez cette phrase sur l'Afrique, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, donc il n'y a rien à faire. Et aujourd'hui, on a renversé cette phrase en disant il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il y a tout à faire. Et donc si on resitue l'Afrique par rapport à l'ensemble du monde, on voit qu'il ne suffit de pas grand-chose pour que cette croissance puisse s'enclencher. On va donner quelques chiffres. Grosso modo, l'Afrique qui regroupe aujourd'hui 1,3 milliard d'habitants a un PIB global qui est inférieur à celui de la France. Donc on a 2,7% du PIB mondial contre 3,2%. Donc il ne suffit vraiment pas grand-chose. Si vous reprenez aussi relativement le PIB par habitant à l'ensemble du monde, on s'aperçoit que le PIB par habitant africain est de 17%, soit c'est 1080 US dollars, la France est à 300% de la moyenne mondiale. Donc il y a une possibilité fantastique si tout le monde s'y met. Alors il y a parallèlement un problème fondamental, c'est-à-dire qu'on a quand même connu une croissance qui a été relativement forte, notamment avec l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001, et cette croissance s'est accélérée. Mais si vous retraitez du phénomène prix des matières premières, puisqu'on a connu une croissance qui était comprise entre 5 et 6%, vous tombez à une croissance qui est inférieure à 2%, sachant que la progression de la population est de 2,6%, ça veut dire que la croissance endogène par habitant était finalement proche de zéro.
Alors on a eu effectivement cet effet entre guillemets chinois, la Chine à la recherche de matières premières, donc qui a été, on va dire, dans les pays qu'elle estimait importants pour elle, pour effectivement des mines, pour aller chercher ces matières premières. Mais une fois que ce cycle des matières premières, on va dire, arrive à sa fin, les pays n'en ont pas forcément autant profiter qu'on aurait pu l'imaginer.
Voilà, alors juste pour donner encore des chiffres, pour resituer, vous avez à peu près 2/3 du PIB africain qui est lié directement au prix des matières premières. Si vous prenez les 7 premières puissances mondiales, ça fait à peu près 65% du PIB. Donc parler de la croissance africaine de façon globale, ça ne veut rien dire, puisque vous avez 54 pays avec un patchwork inimaginable, que ce soit en termes de langue, que ce soit en termes de richesse. Vous prenez le Malawi qui est en queue de peloton, qui a un PIB par habitant de 350 dollars, et puis vous avez des pays comme le Seychelles qui sont au-dessus de 10 000 dollars par habitant. Donc vous voyez, parler de la croissance africaine, des fois on peut se tromper. Vous avez des pays comme l'Éthiopie, avec l'arrivée d'un premier ministre, Ahmed, qui est en train de tout chambouler. Et là aussi, le PIB par habitant est extrêmement faible. Donc il ne suffit de pas grand-chose pour déclencher une croissance. C'est ce qu'on constate aujourd'hui avec une croissance de ce pays qui est en plein boom, autour de 9%.
Vous parliez de l'image qu'on pouvait avoir auparavant de l'Afrique sur justement les besoins aujourd'hui que vous avez identifiés. Vous avez cité notamment les infrastructures. Ça en fait partie, bien entendu. C'est-à-dire que très souvent, ce manque d'infrastructures va créer des tas de problèmes économique bien sûr, mais on pourrait dire géopolitique aussi.
Voilà, alors si on prend le poids des infrastructures, je pense que c'est la seule région au monde où rapporté donc par habitant a baissé. Donc en gros, grosso modo, l'investissement en Afrique c'est 22% du PIB, vous êtes à 48%, c'est l'excès donc en Chine, et vous êtes en Inde autour de 33%. Donc il y a un véritable retard d'investissement. L'accès à l'électricité, donc vous imaginez dans ce monde, notamment avec la quatrième révolution industrielle, l'accès à l'électricité, c'est uniquement 1/3 de la population qui a accès à l'électricité. L'eau potable, c'est 1/3. Donc il y a à peu près 60% des gens qui ont accès à l'eau, mais l'eau est souvent polluée ou il y a des problèmes de maladies endémiques. Donc fondamentalement, si on veut que l'Afrique ne retombe pas dans les travers qu'elle a connus par le passé, il va falloir investir massivement. Alors je prends l'exemple qui pourrait être un lien fantastique entre l'Europe et l'Afrique. Et pour l'Afrique elle-même, c'est l'énergie. Et donc vous avez le Sahara, qui est une surface non peuplée, avec le soleil tous les jours. Donc ça pourrait devenir la centrale, que ça soit photovoltaïque ou thermodynamique, de l'Afrique et de l'Europe. Alors il faut des sommes qui sont colossale. Chaque année, il faudra investir à peu près 90 milliards de dollars. Et alors, je reviens, qui est quand même la problématique fondamentale, c'est ce boom démographique. Oui. Donc, si vous voyez l'évolution depuis la décolonisation, où l'Afrique comptait pour 300 millions d'habitants, on est aujourd'hui à 1,3 milliard. Et dans les projections, on devrait être à 25% de la population mondiale, donc aujourd'hui 17% et 42%. Alors vous voyez bien que ces chiffres sont quasiment impossibles. Ça voudrait dire que l'Afrique représenterait 4,5 milliards donc, en 2100. Ce sont des chiffres qui sont hors sol et bien entendu, les choses ne vont pas se passer. Alors si on prend la première puissance qui est le Nigeria, qui reflète bien un peu la problématique de ces grands pays, dépendant à 97% de ses ressources minières et pétrolières, que ça soit en termes, donc il n'y a quasiment pas d'exportation. Et vous avez un pays qui est aujourd'hui à 190 millions d'habitants et qui devrait passer à peu près à 400 millions d'habitants en 2050 et 750 millions en 2100.
C'est un pays typiquement, on a eu l'occasion d'en parler sur laboursetlavie.com, où il y a des besoins locaux. Si on prend sur l'alimentation,
voilà, il y a des besoins qui sont énormes. Et alors, ça ne veut pas dire qu'en Afrique, même quand on a des messages comme ça qui sont relativement pessimistes, qu'on ne peut pas faire de l'argent. Si on prend justement le Nigeria a connu une progression, c'est le pays qui a le plus de milliardaires, a connu une progression fantastique du nombre de milliardaires. Pour l'ensemble de l'Afrique, au cours des 15 dernières années, le nombre de millionnaires a progressé deux fois plus que la moyenne mondiale. Donc, on peut faire de l'argent en Afrique. Alors, en parallèle, vous avez un taux de pauvreté, d'extrême pauvreté, qui se situe, si on prend le Nigeria, mais c'est la moyenne en Afrique, on est autour de 50%. Donc d'un côté, donc, vous avez un vrai problème d'écart de richesse et de redistribution.
La vision aujourd'hui vue de l'Europe, on le voit bien avec les politiques, les campagnes électorales en cours, aujourd'hui c'est plutôt de se fermer par rapport à, effectivement, au sujet des migrations, de ce qui peut se passer, de ce que vous avez rappelé avec ce passage de pauvreté vers l'Europe. Mais on n'a pas aujourd'hui encore de projet fort pour dire effectivement comment on fait, puisque quand on parle d'aider l'Afrique, il ne s'agit plus d'aider comme on le faisait il y a 20 ans ou 30 ans. Il s'agit plus de la même chose. Aujourd'hui, on parlait d'infrastructures, on parlait de formation aussi, on parle de formation des Africains, c'est autre chose.
Alors, Dayton, qui est prix Nobel d'économie, je crois, en 2015, aborde bien le problème en expliquant que finalement, l'aide au développement pour l'Afrique a souvent été détournée. Elle s'est diluée par le fait, on revient toujours sur la problématique d'explosion de la population, et finalement ça maintient les régimes en place avec des autocraties. On a l'exemple caricatural qui se passe aujourd'hui en Algérie, avec un président qui est resté cinq fois à la tête du pays, et les deux derniers mandats, il était complètement incapable d'assister au moindre comité ministériel.
Avec une jeunesse qui veut, elle, le changement.
Au niveau de la population, pour vous dire quand même, vous avez la moitié de la population africaine qui a moins de 19 ans. Dans des pays comme tout autour du Sahel, c'est moins de 16 ans. Et donc le Sahel, vous avez un taux de fécondité, on a les chiffres officiels des hommes, parce qu'en général, on donne le taux de fécondité des femmes, on est à 13,7. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Sahel, on devrait avoir une population dans le désert où vous avez plus d'eau. Vous avez un vrai problème écologique, et puis derrière vous avez le problème du réchauffement climatique qui entraîne, alors juste encore pour fixer les choses sur l'agriculture, donc il va falloir nourrir tous ces gens-là. Depuis 1990, on a connu une décroissance de la production agricole de 3% par an. Donc il va falloir réinvestir, réinventer complètement l'agriculture, faire une agriculture vivrière, de façon à permettre à toutes ces populations de vivre et donc de ne pas quitter l'Afrique.
Le mot de la fin, si on ne fait rien ou pas assez, parce que c'est un peu, quand on voit aujourd'hui ce qui évolue, on en a du mal. Si l'Europe, finalement, laisse l'Afrique aux Chinois pour les matières premières, maintenant elle s'en est rendue compte un peu tard de ce qui se passait, si aujourd'hui elle ne fait rien concrètement pour changer
qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'exemple d'un département français qui est Mayotte. Donc la population a été multipliée par 11. Donc on est à 250 000 habitants. Vous avez la moitié de la population qui est sans papier, avec des tensions sur l'île qui sont... Il faudrait ouvrir une école toutes les semaines. Et donc fondamentalement, la solution ne peut pas être uniquement sécuritaire, puisqu'on le voit très bien, les gens franchissent la mer au péril de leur vie. Et donc la solution, elle passe par le développement. Donc il faut aller aux Comores pour essayer de négocier avec les gouvernements. Donc si on ne s'en occupe pas, on a vu ce qui s'est passé avec les conflits au Moyen-Orient, le peu de population qui a migré pour fuir donc la guerre, vous imaginez ce qui se passera. Donc c'est dans ce sens-là où le titre, le futur de l'Europe se joue en Afrique, c'est-à-dire ou bien on s'occupe de l'Afrique, ou on va au-devant de graves problèmes.
Merci beaucoup Jean-Luc Buchalet.
Merci.